VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Diriec au micro. Dans quelques instants, l'Amérique et vous avec Jean-Roger Billon. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. La Côte d'Ivoire, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle de dimanche, en dépit des appels au boycott de plusieurs candidats de l'opposition, la commission électorale indépendante affirme que le vote a mobilisé 60% des électeurs selon les premières estimations. Les Congolais attendent pour leur part les résultats du référendum organisé hier sur un projet de constitution qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Trois civils tués et deux casques bleus ce week-end dans l'extrême nord-est du Mali. Une mine où un engin explosif a explosé samedi dans les environs de Tessalit, indique la mission de l'ONU au Mali. Une autre explosion se sera ensuite produite alors que la MINUSMA se rendait sur les lieux. Présidentiel au Niger, Amadou Boubacar Cissé, ancien ministre du Plan, a été désigné candidat à l'élection de 2016 par son parti. L'Union pour la démocratie et la République, l'UDR. C'est ce qu'ont affirmé ses proches à l'AFP. Et puis l'Union européenne a invité les autorités burundaises à des consultations. Les 28 pays de l'UE ont donné leur feu vert à l'envoi d'un courrier au président Pierre Nkurunziza. Les consultations porteraient sur les atteintes à la démocratie dans ce pays secoué par une grave crise depuis le printemps, une procédure susceptible de conduire à la suspension de l'aide européenne. Pierre Nkurunziza a donc 30 jours pour répondre à cette invitation et les consultations doivent se dérouler dans les 120 jours suivants. Drame de l'immigration, un Guinéen est mort noyé dans le naufrage d'une embarcation de fortune près de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. D'après la garde civile espagnole, des forts courants et des vagues auraient renversé le bateau. Le principal parti d'opposition en Tanzanie a dénoncé de possibles fraudes électorales et la tension commença à monter sur l'archipel semi-autonome de Zanzibar au lendemain des élections générales en Tanzanie, dont les premiers résultats partiels étaient attendus aujourd'hui. Dans le reste du monde, un violent tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 s'est produit ce lundi en Afghanistan, provoquant de violentes secousses jusqu'en Inde et au Pakistan. On recense plus d'une cinquantaine de morts jusqu'à présent. Une fusillade dans le sud-est de la Turquie a entraîné la mort de deux policiers turcs et 7 membres présumés du groupe État islamique. C'est le plus grave incident du genre sur le sol turc depuis qu'Ankara a rejoint la coalition anti-djihadiste l'été dernier. Une personne a été tuée et 12 autres blessés aujourd'hui lorsqu'une bombe a explosé dans une mosquée de Najran, dans le sud de l'Arabie Saoudite, près de la frontière avec le Yémen, selon la télévision d'État que cite l'AFP. Voilà, et puis élection générale en Haïti, les premiers résultats officiels sont attendus dans environ une semaine. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Diriec. Je cède la place à Jean-Roger Billon dans l'Amérique et vous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous. C'est la passe d'armes entre les États-Unis et la Russie au sujet de la Syrie. Malgré un récent accord visant à empêcher des incidents entre les avions des deux pays dans le ciel syrien, Pas un seul jour ne passe sans accusation mutuelle sur des intérêts divergents. Que vous inspire la situation en Syrie? Quels sont les nouveaux de la guerre dans la région? Vous pouvez nous joindre en direct à Washington en appelant à partir du continent au 001 202 619 31 40.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
Avec nous en direct d'Ottawa, Serge Bagnogeng, il est enseignant d'université. Monsieur Bagnogeng, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Roger.
Et c'est avec vous donc que nous commençons cette émission. Quatre ans après le mouvement de contestation de 2011, auquel le régime syrien de Bachar al-Assad a répondu par la voie des armes, la guerre a dévasté le pays, elle a jeté la moitié de la population hors de son foyer, ouvert la voie à l'avancée de l'organisation de l'État islamique. Tout est donc remis en cause. Que se passe-t-il en Syrie, Serge Bagnogeng?
Mais écoutez, je pense que ce qu'on voit en Syrie, c'est surtout les manifestations de la guerre asymétrique, c'est-à-dire que c'est d'autres. Généralement, et c'est peut-être pour ça que c'est assez complexe, les armées occidentales sont habituées, très aguerries dans les guerres classiques. La guerre asymétrique, c'est une guerre qui n'est pas contre une armée classique, un peu comme l'État islamique. Mais en plus, c'est beaucoup plus complexe quand on vient dans une région où les structures relationnelles sont tout aussi complexifiées par une historique de conflits et des tensions socio-culturelles et même socio-religieuses assez ancrées dans la région, quoi. Donc c'est assez complexe ce qui se passe en ce moment en Syrie. Seulement, tout cela pour dire qu'on a quand même, ça a quand même pour conséquence d'avoir 4 millions de personnes qui ont fui leur pays et qui sont réfugiées ailleurs, et avec des conséquences qu'on a vues surtout en Occident avec le flot et l'afflux des immigrants, quoi.
Alors justement, Serge Bagnogeng, on ne sait pas qui fait quoi. Tout le monde est présent sur la terre de Syrie. Il y a la Turquie, il y a l'État islamique, il y a la France, les États-Unis. Tous les pays voisins sont impliqués. Quels sont les différents enjeux, les intérêts?
Mais d'abord, justement, ces enjeux, vous l'avez bien tracé. C'est-à-dire qu'il y a une interdépendance, une interpénétration, d'ailleurs, qui est liée d'abord à la sociologie des peuples qui sont présents, c'est-à-dire que les divisions des États ne sont pas seulement les divisions entre les groupes qui sont homogènes. Il y a donc les groupes qui se retrouvent, les groupes sociaux qui se retrouvent de part et d'autre. Il y a aussi un certain nombre de minorités religieuses qui se retrouvent de part et d'autre. Alors, de part et d'autre, vous avez tout à l'heure évoqué, pour un peu revenir, vous avez évoqué la Turquie. Il faut savoir que la Turquie partage une longue frontière avec la Syrie. Mais non seulement ça. C'est qu'il y a beaucoup d'instabilité déjà liée au fait justement des dynamiques socio-ethniques dans la région. Par exemple, pour la Turquie, en ce qui concerne par exemple les populations kurdes déjà qui étaient une assez grande dynamique, qui étaient assez délicates. Et on trouve les Kurdes à la fois en Turquie et en Syrie. Sauf qu'en Syrie, c'est les Kurdes qui sont persécutés, entre autres par l'État islamique, à cause du fait de leur minorité. Alors, qu'est-ce qui arrive pour un pays comme la Turquie? C'est beaucoup plus compliqué parce que est-ce qu'on doit ouvrir les frontières à une population dont le rapport ont tout été hostile? Alors, remarquez que nous avons les Turcs syriens et les Turcs, les Kurdes syriens, les Kurdes qui sont, qui sont en Turquie. Alors, pour la Turquie, l'enjeu ici est d'éviter à ce que cette horde de populations kurdes vienne agrandir déjà le clan des mécontents kurdes qui sont dans ce pays-là. Alors c'est pour ça que vous avez vu qu'au début, lorsque la guerre a commencé, la Turquie a eu un jeu un peu assez complexe, en ce sens que elle n'a pas tout à fait joué franc contre l'État islamique. Elle a fermé les frontières, n'est pas forcément laissé les gens entrer dans le tout temps parce qu'elle ne voulait pas un afflux total par rapport à une population qui était massivement d'origine kurde. Elle ne voulait pas aussi combattre de manière radicale et violente, participer à ce combat contre l'armée, l'État islamique. Alors, quand on situe ces éléments-là, peut-on revenir aussi sur ce que c'est que la Syrie elle-même? Parce que la Syrie, c'est quand même une somme de groupes, une agression de groupes sociaux qui se mettent en place, qui sont de plus en plus gérés par un petit...